Deux heures d'avance, deux heures à patienter, deux heures à ne rien faire sinon contempler ce qui m'entoure en attendant mon invité. Alors je traverse la rue, je descends quelques marches et je remonte sur les rives du Tage dans le soleil éblouissant de Lisbonne. Il y a ce drôle de monument dédié au prince Henri le navigateur et aux grandes figures de l'histoire des découvertes. C'est si grand, c'est si blanc, une trentaine de statues tournées vers l'ailleurs. Il a la forme d'une caravelle ce monument. D'ailleurs, sa figure de proue tient une petite caravelle dans ses mains. Une foule de passants, touristes ou badauds du samedi se pressent tout autour et prend des photos de cette œuvre massive qui date de 1960 et qui est un pur produit de l'esthétique salazariste. Une guide s'en amuse et me glisse à demi-mot qu'on a fini par s'en habituer ici. Ça fait partie du paysage, ça fait partie de notre histoire aussi, comme ça on n'oublie pas. Ni la porte de l'Europe vers l'Afrique, l'Inde et les Amériques, ni les guerres coloniales, ni l'Estado Novo, le régime autoritaire, Dieu, patrie, famille, j'en passe des pires, ni les heures de gloire. Et c'est étrange quand même, je me dis, que de devoir l'assumer, ce passé européen, alors même qu'on l'a pas connu, ce passé qui fait partie du paysage et qui s'incarne dans ce monument aux découvertes du quartier de Belém à Lisbonne, un jour d'avril ensoleillé, quand on a deux heures à tuer.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est une femme de lettres portugaise, l'un des grands noms de la littérature européenne. Depuis bientôt 40 ans, elle explore la mémoire intime et collective de son pays. Elle nous a donné rendez-vous à Lisbonne, au fameux et hautement symbolique centre culturel de Belém. Bonjour Lydia Georges.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là ce matin, de nous recevoir plutôt. Tout d'abord, qu'est-ce qui fait de cette ville de Lisbonne, pour vous, une ville européenne ?
Bon, Lisbonne a été pendant quelques siècles la grande porte de l'Europe vers l'océan, vers l'Afrique, l'Inde et aussi les Amériques. Et cette place où nous sommes, ce lieu, est fantastique exactement parce que nous sommes au milieu d'un territoire qui a été le quai d'où partaient les bateaux qui ont créé les routes à travers les océans.
Et le centre culturel de Belém, où nous enregistrons cette émission ce matin?
C'est un centre qui a été créé quelques années avant, 1992, pour accueillir la présidence de l'Union européenne. Pourtant, il est au milieu d'un triangle des grands monuments qui ont été créés pendant les 6e siècle pour faire hommage exactement à ce travail immense qui a été la traversée des océans.
Alors, vous n'êtes pas née à Lisbonne, Lydia Georges, mais dans la région la plus au sud du Portugal. Quand est-ce que vous avez découvert la capitale de votre pays? Vous vous souvenez?
Oui, je me souviens bien, j'avais 14 ans.
Et qu'est-ce qui vous a frappé?
Ah bon, c'était une grande ville et c'était les monuments et surtout la partie ancienne de Lisbonne, le centre de Lisbonne qui était carré. Alors les rues étaient complètement droites. Après, j'ai compris que c'était une construction du 18e siècle après le grand tremblement de terre. Et tout ça m'a donné une espèce de... m'a fait voyager dans le temps et c'est le moment peut-être où j'ai compris que j'étais portugaise mais aussi que j'appartenais à un monde occidental.
Le Portugal a intégré l'Union européenne il y a 33 ans. Vous étiez en faveur de cette adhésion. Quel enjeu est-ce que c'était pour vous le rattachement de votre pays à l'Europe?
Bon, j'ai plaidoyé exactement pour ça, parce qu'au Portugal, à cette époque-là, surtout les intellectuels étaient contre.
Ah, vraiment?
Vraiment contre, vraiment contre. Il y a tout un groupe qui n'acceptait pas, qui plaidoyait pour la souveraineté complète. Et il y avait aussi les gens qui avaient l'idée qu'on était avant la capitale d'un empire, quelque chose de très grand, et qu'on était en train de perdre si on faisait l'union avec l'Union européenne.
Mais en 33 ans, Lydia Georges, qu'est-ce que l'Europe a apporté au Portugal?
Ah, je pense qu'il a apporté beaucoup, beaucoup. Surtout l'idée qu'on appartient à un continent, le continent des Lumières. Je crois que ça est très important.
Qu'est-ce que la crise économique de 2008 a changé dans les relations entre le Portugal et l'Union européenne?
Cette crise, elle nous a montré que on était dans un monde où la souveraineté qu'on partage avait un contrepoids. C'était le contrepoids de l'exploitation économique.
Et on en ressent encore les effets de cette crise économique 10 ans après au Portugal?
Oui, on ressent. Quoique on soit dans un moment très optimiste. Parce que quand même, on a traversé un moment très dramatique. Vraiment dramatique. À ce moment, depuis 4 ans, on a l'idée que cette souffrance, elle avait un sens. Le sens d'une transformation. Et c'est vrai que le Portugal aujourd'hui, du point de vue politique, a dépassé cette crise mentale. Et on croit de nouveau aux institutions européennes.
Alors diriez-vous que les Portugais sont plutôt europhiles, plus qu'eurosceptiques aujourd'hui?
Je crois.
En tout cas, le sentiment anti-européen, il est bien réel et il se traduit par une montée de l'extrême droite face à ce discours nationaliste qu'on entend partout en Europe. Qu'est-ce que l'Europe peut proposer, justement?
L'Europe propose exactement de nous rassembler autour d'un idéal qui est un idéal culturel. Plutôt qu'un idéal économique, c'est un idéal culturel. Mais ça est très difficile, c'est une construction vraiment fragile. On est toujours sur le point de perdre le point d'équilibre. Toujours. C'est une conquête qu'on fait jour après jour.
Qu'est-ce qu'il manque à l'Europe aujourd'hui, Lydia Georges, pour vous?
Je crois qu'il manque une espèce de ciment agglutinant.
Une cohérence.
Et je crois que cette cohérence, quoique je pense qu'elle doit être absolument culturelle, qu'on doit créer un Erasmus de musique, de théâtre, de lecture. Je crois qu'on devrait faire, par toutes les places de l'Europe, une espèce de rencontre des jeunes en lisant à haute voix les grands textes européens.
Vous nous avez fait la gentillesse de nous écrire un texte où vous nous livrez une définition de l'Europe dans laquelle l'idée de cohérence, de ce ciment, est absolument centrale. Est-ce que vous voulez bien nous le lire?
Bien sûr. En 1997, la Croix-Rouge internationale a invité la princesse Diana du Pays de Galles à participer à une campagne visant à attirer l'attention sur les mines antipersonnelles qui mutilaient les enfants et les adolescents des pays africains. Le 15 janvier de cette année, Diana s'est rendue dans la région de Huambo en Angola, un territoire complètement miné par la guerre civile. Les photographes ont ensuite capturé des images très émouvantes de la princesse de Galles tenant des enfants handicapés dans ses bras. Sur l'une d'elles, Diana avait les yeux fermés et pressait un enfant amputé contre son cœur. Cette image a parcouru le monde. C'était l'image pure de la compassion d'une femme européenne pour la souffrance humaine. Mais dans les jours qui ont suivi, il a été rapporté que les mines qui avaient mutilé ces enfants étaient de fabrication anglaise. C'est la grande contradiction. La même Europe, héritière de l'esprit chrétien, qui a construit les cathédrales, qui a inventé la presse, a créé l'encyclopédie, nourrie par des philosophes tels que Socrate, Platon, Saint-Augustin, Galilée et Kant, qui a inventé le théâtre classique, l'épopée, l'opéra, le roman, et puis le cinéma, qui a créé les systèmes les plus généreux et idéalistes de l'histoire, qui a inventé les parlements et les démocraties, ce côté lumineux des sociétés humaines, et le même continent qui crée, dans le noir, les instruments de l'agression par le seul instinct marchand. Il n'y a pas de réponse, mais il y a une question à poser. Comment se fait-il que ceux qui créent la beauté ne soient pas eux-mêmes capables de créer la paix?
Quelle belle question, Lydia Georges. Comment se fait-il que ceux qui créent la beauté ne soient pas eux-mêmes capables de créer la paix? Est-ce que vous avez des éléments de réponse, vous?
J'ai un élément de réponse. C'est la nature humaine. Et je pense qu'elle est contradictoire. Nous sommes partagés en deux. Et je crois que plusieurs écrivains, et moi-même, on écrit exactement pour ça, pour essayer de unir quelque chose qui est séparé et illuminer quelque chose qui est, comment dire, noir autour de nous.
Qu'est-ce qui fait la beauté et la lumière de l'Europe, Lydia Georges?
c'est la pensée, c'est la bonne pensée, c'est penser que la fraternité nous aide à être humain. C'est penser que le poème de Schiller, qui est derrière la chorale de Beethoven,
l'hymne européen.
L'hymne européen, c'est ça. Même que Dieu ne soit pas là, qu'il soit au-delà des nuages, nous sommes des gens de fraternité. Pour moi, c'est le plus important, c'est la grande lumière de l'Europe, c'est la création, même d'un schéma social qui dit que nous sommes un groupe, l'humanité est un groupe.
Cette lumière, Lydia Georges, on la retrouve chez une romancière française que vous aimez beaucoup, je le sais. Elle s'appelle Marguerite Yourcenar et je vous propose d'entendre quelques extraits de l'un de ses plus beaux livres, Les Mémoires d'Adrien, lu par elle-même en 1958 sur l'ORTF.
Notre époque, dont je connaissais mieux que personne les insuffisances et les tares, serait peut-être un jour considéré, par contraste, comme un des âges d'or de l'humanité. L'adoucissement des mœurs, l'avancement des idées au cours du dernier siècle est l'œuvre d'une infime minorité de bons esprits. La masse demeure ignare, féroce quand elle le peut, en tout cas égoïste et bornée. Et il y a fort à parier qu'elle restera toujours telle. Trop de procurateurs et de publicains avides, trop de sénateurs méfiants, trop de centurions brutaux ont d'avance compromis notre ouvrage. Et le temps pour s'instruire par leurs fautes n'est pas plus donné aux empires qu'aux hommes.
Lydia Georges, invitée de Boomerang ce matin pour cette semaine à l'heure de l'Europe. On est, je le disais tout à l'heure, à Lisbonne, où vous vivez. Et il se trouve que nous sommes à quelques jours de l'anniversaire de la révolution des œillets de 1975, qui a mis fin à une dictature qui a duré plus de 40 ans. Vous n'aviez pas 30 ans à l'époque. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ce moment historique, Lydia ?
Ça a été un moment absolument extraordinaire. Peut-être un des moments les plus importants de ma vie. Je crois que c'est même un moment décisif de ma vie. Parce que j'étais en Afrique, en pleine guerre coloniale. J'ai été témoin de groupes de militaires qui se rencontraient pour préparer un changement. Alors, ce moment a été désiré chez moi. J'ai vécu par la radio tous les sons de la révolution. La révolution, pour moi, est la radio qui parlait, qui donnait des nouvelles en Afrique. C'était un moment de gloire.
Alors, quelles ont été les grandes étapes de cette révolution des œillets dont vous rappelez souvent, Lydia Georges, avec beaucoup de fierté, le caractère pacifique?
Oui, c'est vrai. C'est Samuel Huntington qui parle exactement que la révolution portugaise a été un modèle de quelques dizaines d'autres révolutions pacifiques. La révolution de velours, d'échecs, tout ça, on disait que c'était une conséquence de la révolution portugaise. C'est magnifique de penser ça, parce qu'on a inauguré une révolution et aussi l'Amérique, les États-Unis de l'Amérique, ont appris ici à changer leur politique. Parce qu'avant, ils déclenchaient des coups d'extrême droite contre les révolutions. On avait l'idée de ce qui s'était passé à Chili une année avant. Alors, cette révolution a été faite avec le fantôme du Chili. Et ici, les Américains ont compris qu'il fallait changer quelque chose, qu'il fallait donner l'opportunité d'être démocrate. Et on a eu la grande aide de l'Allemagne et aussi de la France et aussi de la Suède, qui nous ont aidés à créer un modèle démocratique au lieu de tourner à l'extrême droite ou par contre d'aller pour un régime soviétique.
Que reste-t-il de cet idéal révolutionnaire aujourd'hui au Portugal ?
Vous savez, il reste l'idée qu'on est en liberté. Je crois que les jeunes ils n'ont plus cette idée, parce que c'est impossible, on ne passe pas aux générations qui viennent ce que l'on a souffert. Pourtant, il y a toute une espèce de mémoire des gens qui ont 60, qui ont 70 ans, et nous sommes toujours en train de dire, avant, on était absolument pauvres. Avant, les gens qui avaient 60 ans devaient demander l'aumône à la famille pour survivre. Avant, on avait une école qui était une école absolument fragile et pas démocratique. Avant, l'Église écrasait la liberté des gens et surtout la liberté des femmes. Alors, les choses se sont tellement transformées que c'est impossible de n'être pas ému quand on pense que les militaires qui faisaient la guerre coloniale, eux-mêmes, ils ont libéré les pays africains et les pays asiatiques pour être des pays autonomes. Et en même temps, ils nous ont donné la liberté. Ça a un prix extraordinaire.
Vous racontez le Portugal sous Salazar. Quel fantôme est-ce qu'il a laissé derrière lui, Salazar, Lydia George?
Il a laissé un fantôme horrible. C'est le fantôme qu'il écrasait le bonheur des gens. Pourtant, ce fantôme, pour quelques personnes, est encore un fantôme incroyablement positif. Parce que les gens disent, avant il y avait la paix ici, et il y avait l'ordre, il n'y avait pas de discussion, et il y avait la famille ordonnée, il y avait la femme qui était soumise, alors c'était bon, les bons mœurs, on ne voulait pas les homosexuels, on les poursuivait, et cela était juste. Alors il y a encore ces gens-là. C'est pour ça que je comprends que l'Europe, l'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Angleterre ont aussi des fantômes différents, mais ces fantômes d'une espèce d'ordre, de souveraineté orgueilleuse, demeurent là, restent là. Parce que la transformation des sociétés est bien plus lente que la transformation d'un individu.
Vous, Lydia George, par quel fantôme est-ce que vous êtes hantée?
Par la beauté. Par la beauté.
Vous êtes émue en disant ça?
Oui, c'est vrai, parce que moi, je dis que contre le mal, je ne sais pas si je suis capable d'opposer le bien, mais je sais que contre le mal, je peux opposer la beauté. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire avec mes livres et mes paroles, si c'est possible.
Et qu'est-ce que ce serait, la beauté en littérature?
La beauté en la littérature, c'est de créer quelque chose qui n'a pas de nom. Pourtant, quand on lit, on est capable de marcher au-dessus de la terre.
On va continuer à parler ensemble de souvenirs, d'écriture, de beauté, de poésie. Lydia, juste après la voix envoûtante et bouleversante d'Amalia Rodriguez qui sentait en 1965 son fameux Fado Portugues. Vous êtes sur France Inter avec Lydia George. Vous écoutez Boomerang à l'heure européenne.
Nasceu dia quando o vento mal doía e o céu mal prolongava. Namorada de veleiro no peito do marinheiro que está. Folhas, flores, frutos de ouro, vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar sequinho de choro, na boca.
marinheiro do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada. Diz o pungir dos desejos do lábio a queimar de beijos que beija o ar e mais nada. Que beija o ar e mais nada. Mãe, adeus, que lindeza tamanha no chão. Meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
On est sur une douceur, hein, pour ne pas dire une dosura, avec cette façon qu'elle a de vous couver du regard comme une madone aimante et protectrice, son brushing rassurant devant l'éternel, son sourire plein d'indulgence, de pudeur, de générosité. On renierait père, mère, mari, femme, enfant et même cocker spaniel pour être adopté par elle, avec son foulard blanc autour du cou et ses yeux humides ce matin. La romancière Lydia Georges, invitée de Boomerang pour cette semaine à l'heure européenne. On est au Portugal, à Lisbonne, au centre culturel de Belém. Et on le disait, Lydia, vous êtes née dans la région de l'Algarve, dans un village tout au sud du Portugal. Avec quel paysage est-ce que vous avez grandi?
J'ai grandi dans un paysage devant la mer. Et dans un territoire un peu stérile, très sec, avec des amandiers, avec des figuiers.
Et à quoi ressemblait le village de votre enfance ?
C'était la campagne, ce n'était pas même un village, c'était la campagne. Je me sentais, parce que j'étais souvent seule à la maison, j'avais l'idée que j'étais seule dans la nature. Et l'idée que j'avais, c'était que la nature me protégeait et que les animaux y étaient mes amis.
Mais à vous lire, c'est aussi un endroit, un lieu où les hommes étaient pour ainsi dire absents. Où est-ce qu'ils étaient, les hommes ?
Ah bon, c'est vrai. Les hommes avaient... Tous les hommes de la famille et les voisins étaient partis pour l'Afrique, comme le cas de mon père et de mon grand-père. Amérique du Sud, surtout Argentine et Brésil, et Amérique du Nord, Canada et les États-Unis, et aussi la France et l'Allemagne. Alors, c'était un pays qui était, quand j'étais jeune et j'étais petite, c'était un moment où les maisons étaient abandonnées, étaient fermées. J'ai éprouvé très tôt l'idée du changement, parce que je me souviens des maisons qui étaient habitées, et après les portes étaient fermées, et après les toits tombaient sur le plancher. Et je me souviens très bien de visiter ces maisons-là. Elles n'avaient pas de toit. Et cette expérience que la vie peut avoir un moment d'équilibre, mais que le déséquilibre peut venir, c'est quelque chose qui m'a touchée depuis toujours.
C'est par la lecture à haute voix que vous êtes entrée dans le monde des livres et de l'écriture. À qui et dans quelles circonstances est-ce que vous lisiez ? Il faut nous raconter.
Oui, j'étais seule. J'étais un enfant seul à la maison et seule aussi avec les femmes, avec mes tantes, avec ma mère, avec ma grand-mère. Et pendant la nuit, elle lisait à haute voix parce qu'elle cousait, elle faisait des travaux de main. Et il y avait une qui lisait à haute voix. Et puisque j'ai lu très tôt, elle m'en passait des lectures pour que soit moi la lectrice.
Et qu'est-ce que vous leur lisiez ?
Et je lisais des histoires qui n'étaient pas pour mon âge, vraiment. Je lisais des histoires, romantiques.
Des histoires d'amour.
Terribles, des histoires d'amour. Et vous savez que le schéma romantique, c'est toujours le schéma de l'abandon, les hommes abandonnaient les amantes, les parents abandonnaient les enfants. Il y avait des gens qui se tuaient, qui s'entretuaient. Tout ça, c'était des drames horribles. Et je lisais ça à haute voix.
Ce que je comprends à demi-mot, c'est que votre désir d'écrire est né d'une volonté de répondre à ces histoires-là, de les corriger,
quelque part. C'est vrai. J'ai commencé à cette époque-là à écrire mes premiers textes. C'était des textes avec des fautes. Mais je ne supportais pas ce déséquilibre des gens adultes. Et pour le matin, quand la maîtresse nous demandait d'écrire des rédactions sur les rois ou sur les animaux, je faisais en même temps de petits textes où ces personnages, au lieu de s'être perdus pour toujours, je les faisais revenir et se rencontrer. Alors je pensais corriger comme ça la vie perturbée des adultes que je ne comprenais pas.
Vous diriez, Lydia Georges, que les livres répondent à quelque chose dans la vie, nous apportent des réponses?
Les livres, surtout, nous posent des questions inquiétantes et nous essaient de prolonger toujours les questions comme une espèce de défi. Et ça, c'est ça ce qui sépare la littérature, la vraie littérature, de la littérature qui soulage. La littérature n'est pas créée pour soulager, mais pour élever. Et l'homme s'élève quand il pose les questions fondamentales de l'existence. La littérature sert à ça. La littérature sert à poser les questions que la philosophie pose, mais d'une façon sauvage, d'une façon très proche de notre vie intime, pas contrôlée par le raisonnement cartésien. Et alors, c'est pour ça que la littérature accompagne les gens. La littérature décrit notre intimité, pose nos questions, essaie de répondre, et à la fin des dernières pages, on se sent accompagné par la voix de l'auteur et par la voix des personnages, par la beauté du langage, et on se sent dans un réseau qui dépasse la personne, et on dit, voilà, je suis avec les autres dans un chemin qui marche. Et la question, toujours, c'est que quand on lit un grand livre, on comprend que l'auteur a posé la question. Comment c'était l'amour quand je suis venue au monde? Comment est-elle l'amour quand je vais partir? Et c'est toujours ça, c'est toujours entre ces deux, cet intervalle de la vie que la beauté des livres est créée.
Magnifique. Quand est-ce que vous avez compris, Lydia Georges, pour autant, que l'une de vos grandes missions serait d'écrire l'histoire de votre pays, de vous en faire la dramaturge?
Bon, j'ai compris ça pas comme une mission, parce que je ne regarde pas tellement haut. Mais j'ai compris que je me sens comme une espèce d'antenne, une antenne du temps qui passe. Et j'ai décidé d'écrire comme une espèce de chroniqueuse hantée par une espèce d'hallucination. Ce n'est pas une chronique journalistique, mais c'est une chronique du temps qui passe, de mon temps. Et au contraire de cet écrivain, que pour moi est la voix de l'Europe, au contraire de Marguerite Yourcenar, qui est quelqu'un de la lenteur, du lointain, qui plonge dans l'histoire pour dire voilà comment l'histoire parle avec le moment présent. Moi, je appartiens au groupe d'écrivains qui sont des antennes du présent. Et on essaie de ressentir la transformation sous nos semelles. Et pour moi, ça, c'est le plus important.
C'est un extrait de votre roman « Les Mémorables » que j'aimerais lire pour terminer cette émission, ce grand roman où vous exploriez la mémoire, justement, de la révolution des œillets. Regardez-moi bien et n'oubliez pas ce que vous allez entendre aujourd'hui. Je suis vivant et tant que je le resterai, je ne laisserai pas des gens pervers me passer sur le corps, des gens pervers dépiter des mensonges sur moi ou sur les miens. Vous parlez de fiction, vous avez raison. Je me dis parfois que pour autant de mensonges, seul Shakespeare serait à la hauteur. Mais malheureusement, les drames shakespeariens se multiplient dans la vie, jour après jour. Mais aucun Shakespeare n'existe parmi nous. C'est très fâcheux. Ce pays, qui abonde en acteurs et en drames, manque de dramaturges. Et le temps passe. passe, passe. J'en ai assez de me taire. La BBC me donne une occasion. J'accepte de bon cœur. Au moins, je m'occuperai des récits qui me concernent et qui concernent les miens.
Merci.
Merci. Lydia Georges, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici au Centre culturel de Belém à Lisbonne. Je précise aux auditeurs que votre nouveau livre, Estuaire, publié aux éditions Métellier, sortira en France le 29 août prochain. On l'attend avec grande impatience et j'invite tous les auditeurs de Boomerang à se plonger dans votre œuvre si riche. On se retrouve demain, nous, en Catalogne, à Empúries avec l'écrivain Javier Cercas. C'est une semaine de voyage en Europe, une semaine de pensée aussi dans Boomerang. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça.